Le silence des petits papiers, chapitre 29. La sécheresse sévissait depuis bientôt 5 ans. Chacun s'employait à compenser la pénurie d'eau à sa façon. Dans le quartier, ceux qui avaient la chance de posséder un puits tiraient sans vergogne dans cette manne. Il en était ainsi de génération en génération. Mais aujourd'hui, la donne changeait. La gestion des réserves devenait un enjeu primordial face au danger. Jean-Christophe assistait en spectateur médusé à toutes les initiatives pour continuer à jouir sans entrave du précieux liquide. Certains installaient des pompes immergées, d'autres bidouillaient des installations sophistiquées pour arroser la pelouse la nuit, leur conscience civique s'arrêtant à la margelle des puits. Les autorités prirent des décisions drastiques. Il y eut rapidement 2 sortes de citoyens. Ceux qui possédaient le précieux trou permettant de rejoindre la nappe phréatique et la grande majorité subissant l'interdit. Les uns se servaient en catimini pendant que les autres regardaient se faner leurs plantations. Ils étaient convaincus de vivre les prémices de la guerre de l'eau. En attendant, les chanceux regardaient avec inquiétude baisser le niveau de leurs réserves. Ils ne pouvaient s'emparer de la totalité du trésor commun enfoui quelques mètres sous eux. La volonté de continuer à en profiter les poussa à chercher à parfaire leur appropriation. Bien sûr, dans toutes les préfectures, des cellules de gestion de l'eau étaient mises en place. Les préfets étaient décidés à limiter au maximum le gaspillage. Cependant, ils se trouvaient confrontés à un problème d'importance. Les puits ne dépendaient pas des sociétés en charge de la distribution. Ils étaient creusés dans des propriétés privées. Ici, leur pouvoir montrait ses limites. Il appartenait aux élus de la nation de légiférer. Depuis le début de la sécheresse, toutes les initiatives en la matière échouaient lamentablement. La nouvelle assemblée élue installa une nouvelle commission qui prit la suite de la précédente. En attendant, il était urgent de ne rien faire. Amédée fut le premier à procéder au nettoyage de son puits. Il embaucha un voisin qui descendit voir ce qui se passait 10 mètres plus bas. Il espérait creuser une cavité qui permettrait la rétention d'une plus grande quantité de liquide. Le hic, c'est que son idée germa dans la tête de la plupart de ses voisins. Chacun voulut se prémunir en réalisant une poche plus ou moins profonde. Au fur et à mesure des opérations de curage, les suivants virent le niveau diminuer sensiblement. C'était inéluctable. La quantité de la nappe restant identique, c'est sa répartition qui se modifia. À défaut de guerre de l'eau, cela déclencha quelques escarmouches. De vieilles querelles réapparurent, attisées par un vent de folie que la pénurie d'eau exacerbait. Il y eut des surprises dans chaque cavité visitée. À croire que l'homme se débarrasse de ce qui le gêne en le soustrayant à son regard. 2 squelettes furent découverts dans le puits d'Arsène. Ce dernier hésita avant de confier ses restes aux gendarmes. Il n'aurait pas agi de la sorte s'il les avait trouvés lui-même. L'ouvrier aurait pu parler et le pauvre Arsène se serait trouvé accusé de dissimulation. Il n'avait jamais entendu parler de disparition, hormis la jeune femme évanouie dans la nature en 1920. Le lendemain de la découverte, 2 fusils de marque Mauser, ainsi que 2 casques allemands datant de la dernière guerre, rejoignirent leur propriétaire. Larsène se sentit mieux. Il comprit que l'exécution des 2 soldats avait eu lieu pendant qu'il était enfant, son père ayant rejoint le maquis lorsque les Boches envahirent le pays. Le vieux paysan, comme tous les anciens, utilisait le terme Boche pour désigner nos ennemis d'hier, amis d'aujourd'hui. L'Europe, avec la fraternisation des peuples, ne l'empêchait pas de penser du mal des descendants des fiers conquérants. Cette génération n'évacuera jamais les atrocités vécues à cette époque. Cette découverte occulta d'autres trouvailles, chacun choisissant la discrétion pour évacuer des objets indésirables. Amédée, ayant commencé le premier, ne fit aucun commentaire lorsqu'il remonta un bidon d'huile bizarre. Le récipient séjournait dans le puits depuis quelques mois, 1 année tout au plus. La marque gravée sur le plastique lui indiqua qu'il s'agissait d'un exemplaire non commercialisé en France. En l'agita, il constata qu'il restait du liquide. Il dévissa le bouchon. Lorsqu'il huma le contenu, il comprit immédiatement de quoi il en retournait. Une odeur d'essence le saisit. Il resserra le bouchon et se dirigea d'un pas décidé vers le fond du jardin. C'est là que Tonin brûlait les déchets. Il s'empara d'une fourche plantée dans le sol à proximité. Il ranima le feu engourdi, recula de quelques pas et jeta le bidon au milieu du brasier. Il patienta quelques secondes qui lui parurent interminables. Une explosion, suivie d'un souffle caractéristique, se produisit. Un coup de chaud se répandit autour de lui. 2 minutes plus tard, le récipient et son contenu s'étaient évanouis dans la nature, à la grande satisfaction d'Amédée. Le puits lui avait donné une indication. Il préféra tourner la page. Tout ça lui faisait trop mal. Il ne voulait pas revivre les affres de l'incendie. De toute manière, rien ne pourrait changer l'ordre des choses. Le voisin, qui nettoyait 10 mètres plus bas, ne fit aucun commentaire. Par habitude, il avait mis une cochonnerie de plus dans le seau. Tonin avait vu toute la scène. Il comprit rapidement que le feu éviterait de relancer la polémique. Il serait muet comme une tombe.